Histoire des îles Marquises, de Akakayo Tehenua Enana, de Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ohanui.
Et bienvenue dans cette sixième émission,
édition 2023,
qui nous fera traverser les années 1774 à 1797, au cours desquelles, après le passage du capitaine Cook en 1774, nous verrons la découverte des îles du groupe Nord des Marquises en 1791 et l'arrivée des missionnaires protestants à Tahuata en 1797. Lors de la précédente émission,
nous avions survolé le XVIIe siècle sans y trouver trace de Enana ou de Enata. Au cours du XVIIIe siècle, sont nés les grands-parents et parents des chefs qui dirigeaient les différentes tribus des îles Marquises au retour des Occidentaux, dont le capitaine Cook à Tahuata en 1774, c'est ce que nous avons vu. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les dernières années du XVIIIe siècle, juste avant 1800, et nous allons voir comment, après la redécouverte des trois îles du Nord par les Européens, le passage des navires étrangers s'est progressivement intensifié. Dans un premier temps, cette série d'émissions se contentera de suivre la chronologie des années. Et quand le moment sera venu, nous ferons des pauses nous permettant de jeter un regard plus synthétique sur les années étudiées, afin de comprendre comment les événements sont liés les uns aux autres. Entre 1774 et 1791, 17 ans donc, personne ne fera escale aux îles Marquises. Pour les Occidentaux, Français, Anglais, Américains, l'océan Pacifique est devenu une zone à exploiter sous toutes ses richesses. Baleines, peaux d'animaux, pierres précieuses et arbres précieux. Ils sillonnent l'océan et finissent par faire escale aux Marquises du Sud, où on leur parle des îles du Nord, encore inconnues du reste du monde. Juste avant la fin du siècle, en 1786, à Nuku'iwa, c'est la naissance de Tuwitoa, quatrième enfant et premier fils de Keatonui, chef des Teihi, et de son épouse, Tahiatai'oa, dont nous avons déjà parlé. Il sera le père officiel de Pakaua Teihi lui-même, père de Temoana. Vers 1790, à Tahuata, c'est la naissance de Petete, qui deviendra chef des Hema de Waitahu, après Tainai, sous le nom de Iotete. En 1791, le 14 avril très exactement, Joseph Ingraham, commandant le navire Hope,
l'Espérance,
des États-Unis, fait escale à Hivaoa. Et puis le 15, à Tahuata, où il passe 5 jours et nuits à tirer du canon, estimant qu'il est menacé. Entre le 19 et le 22, en remontant vers le nord, il passe à l'ouest de Nuku'iwa sans pouvoir y accoster à cause des vents d'est. Il est donc ainsi le premier occidental à apercevoir le groupe nord-ouest qu'il nomme Washington Islands, du nom du premier président des États-Unis. Il n'y met pas le pied, il faut bien s'en souvenir, il aperçoit seulement l'île. Cette même année-là, le 11 juin, quelques mois après, un deuxième navire étranger se rapproche des îles Marquises. Il est commandé par le capitaine Étienne Marchand. C'est un Français et son navire se nomme le Solide. C'est un bateau de commerce. Il fait d'abord escale à Waitahu, à Tahuata donc, où il restera 9 jours pour se ravitailler. Les insulaires sont accueillants et contrairement à ce qui s'était passé avec Cook, les femmes se montrent très vite engageantes, c'est-à-dire que certaines nagent jusqu'au navire. En outre, Marchand ne signale pas de larcin majeur et ne fait jamais usage d'armes à feu. Entre le 21 et le 22 juin, il accoste à Wapo, à Waiehu, sur la côte nord-ouest. À Wapo, auquel il donne son nom. Il est frappé par la majesté de l'île et aussi la gentillesse des insulaires qui, bien qu'impressionnés par la taille du navire, ne font aucun cas des pacotis qu'il leur propose. Seul un miroir les étonne. Au contraire des autres îles du Sud, peu de gens viennent à leur rencontre en pirogue, et les femmes restent à l'écart. C'est le 22 juin donc, que Marchand débarque pour prendre possession de l'île au nom du roi Louis XVI. Il fait poser une plaque sur un banian du bord de mer et distribue 3 bouteilles cachetées contenant la copie papier de l'acte de prise de possession. Après avoir distribué des monnaies, des clous, des couteaux, des hameçons et des miroirs, Marchand embarque au cri de « Vive le roi !» et s'éloigne en renonçant à donner du canon de peur d'effrayer les Enanes. Il passe ensuite à l'ouest de Nukuhiva, sans pouvoir non plus y accoster. Mais il lui donne le nom d'île Bau, B-A-U-X, et celui d'île de la Révolution au groupe Nord-Ouest. Le problème, c'est que quand Marchand arrive à Paris, en 1792 ou 13, 2 ou 3 ans plus tard, la Révolution a fait son travail et on s'occupe plus tellement des découvertes dans le Pacifique. La politique a pris trop d'importance, c'est la période la plus tragique de la Révolution française et les esprits des gouvernants ne sont pas aux découvertes. Donc on s'occupe pas tellement de cette découverte des îles Marquises, ou plutôt des îles de la Révolution. Donc cela fait seulement 2 navires étrangers en 1791. L'année suivante, 1792, le 22 mars, c'est un navire britannique, le premier, le Daedalus, commandé par le capitaine Richard Hergest, qui fait escale à Tahuata. Mais comme un incendie s'est déclaré à bord au moment de l'arrivée, l'équipage est très occupé à éteindre cet incendie, à le circonscrire, et se laisse déborder par les Enata qui sont montés à bord et commettent de nombreux vols. Hergest est contraint de faire feu et un homme est tué. Il prend 2 hauts personnages en otage et le calme revient. La violence se fait jour dans le comportement des étrangers. Tout ça pour des problèmes d'absence de communication. Le 31 mars, après avoir quitté les îles du Sud, il aperçoit Wapo. Le 1er avril, il est à Nukuhiva, où il visite Ho'oumi, Taipivai et Taiohae. C'est lui qui donne à Taiohae et à Sabé le nom de port Annamaria, un nom qui sera utilisé par toutes les nations tout au long du 19e siècle. C'est encore lui, Hergest, qui donne le nom de baie du contrôleur à l'immense baie bordée par les vallées de Ho'oumi, Hakapa'a et Vai'i, devenue Taipivai. Ignorant que le groupe Nord-Ouest a déjà été reconnu l'année d'avant, il lui donne son nom tout simplement. Il lui donne le nom de Hergest Islands. Un deuxième navire passe entre le 2 et le 3 juin à Waitahu. C'est le Butterworth, capitaine Brown. Plus tard, il mouillera à Hatiheo. Toujours en 1792, vers la fin de l'année, puisque c'est à partir du 11 novembre jusqu'au 24 février 1793, le capitaine Josiah Roberts du Jefferson, États-Unis, séjourne à Tahuata. Alors ce qui est étonnant, c'est que ce monsieur est arrivé avec un bateau en pièces détachées. Une goélette qu'il envisage remonter sur place en vue de faire le commerce des fourrures sur la côte nord-ouest des États-Unis. Il reste donc novembre, décembre, janvier, 3 mois et demi, presque 4 mois à Tahuata, à remonter cette goélette. Il a donc le temps de visiter un peu l'île et il note que sur cette île et sur toutes les autres, il y a une variété de coton qu'il nomme gossypium et qui est donc un coton endémique. Mais les Marquésiens, les Enata du Sud, ne voient pas d'un très bon œil ce navire rester aussi longtemps et demander tous les jours du ravitaillement. Le 19 novembre, donc très peu de temps après leur arrivée, un Enata est tué à la suite de nombreuses escarmouches provoquées par les problèmes de ravitaillement. Le 28 novembre, les Enata attaquent carrément et 9 d'entre eux sont tués. Le chef même, Tainai, le Hakaiki, est blessé et son frère, Tapahui, fait partie des morts aux côtés d'un homme appelé Nituhiva. C'est Greg Denning qui nous raconte ça à la page 242 de son livre « Réflexions sur une terre muette ». Cette année-là, 1792, à Nukuhiva, naissance de Moana et Tahia Taioa, 2 enfants illégitimes du chef Kiatonu.
Ka tu amo enui wa ta o te kai oi ata ua ua o te mata mata kai oi
donc en 1792. Voyons ce qui se passe en 1793, le 1er février à Nukuhiva, deuxième passage du navire Daedalus, commandé cette fois par le lieutenant James Hanson, car le capitaine Hergest a été tué à Hawaï. Là encore, incompréhension, ils sont à Taiohae, les Enahana montent à bord, s'emparent des avirons, des chaloupes et aussi des chapeaux. Ils lancent même des bananes à la tête des officiers. Des escarmouches sanglantes s'ensuivent dans la baie où le canon est tiré sur les Enahana. Taiohia, jeune frère de Kiatonui, est grièvement blessé. On le ramène à terre chez son oncle Koki, puis on tente de le soigner à bord. Le 3 février, alors que le navire essaie de s'esquiver en douce, remorqué par une baleinière faute de vent, le Hakaiki Kiatonui, revenant d'une expédition à Hakaui, ou Henua Taha selon les sources, fait son entrée dans la baie à la tête de ses pirogues de guerre, dont la proue est ornée de crânes ennemis. Croyant à une nouvelle attaque, le Daedalus fait tonner ses mousquets et ses canons, tuant et blessant des dizaines d'Enahana. Malgré la pagaille qui règne à bord, et pour éviter peut-être des représailles plus sanglantes, l'équipage fait en sorte de restituer
le corps de Taiohia.
Puis, le navire quitte la baie, laissant à la population un sentiment mêlé de crainte, de méfiance et d'incompréhension.
Une dizaine d'années plus tard, l'anglais Edward Roberts, qui vivait à Nukuhiva, écrira dans son journal sa colère et sa honte quand il se trouvera face à un officier anglais ayant participé au massacre et auquel il expliquera que Taiohia, le jeune frère du chef Kiatonui, avait jeté des bananes sur le bateau seulement pour se faire remarquer, non par agressivité, qu'il n'était pas armé et que jamais un anglais n'aurait dû agir de la sorte. Roberts quittera même le navire et refusera de le guider au mouillage.
De retour à Tahuata, vous vous souvenez de la goélette apportée en pièces détachées. Eh bien, le 8 février, après le lancement difficile de cette goélette nommée Résolution, à Waitahu, les Enahana saccagent les chantiers restés sans garde. Le 24 février, le Jefferson et la goélette Résolution lèvent l'ancre vers le nord. À leur bord, 5 Enahana ont été embarqués comme aide. Mais pendant la nuit, ils s'éclipsent, emportant avec eux fusils et cartouches. À Waitahu, avant le départ, un homme âgé nommé Tuhinowai s'était lié avec l'équipage. Il vivait sur place depuis 10 ans et il avait l'intention de rentrer à Nukuhiva, son île natale, dont il ne cessait de parler avec le capitaine Roberts. Roberts l'invite donc et il est aussi du voyage. Le lendemain, le 25 février à 4h du matin, les navires découvrent Wapo. Et, en fin d'après-midi, ils passent entre l'île même principale et Motuhoa au sud-est. Quelques pirogues venues de Hakatao leur apportent des noix de coco et quelques poissons. Puis ils continuent leur chemin par l'ouest de l'île. Le 26 février, ayant aperçu Uahuka et Nukuhiva, ils prennent la direction de cette dernière île, Cap Nord-Est. Ils aperçoivent le rocher Hatuiti et atteignent le sud-ouest de Nukuhiva. Le 27 février, le lendemain, ils sont au nord de l'île et des pirogues arrivent avec des bananes du Taro et quelques poissons échangés contre des clous. Le 28 février, vers 10h, tandis que les deux navires restent à l'abri de la côte ouest, un officier, secondé par Tuhinowai, prend la direction d'une petite baie à bord d'une pinasse. Ils y rencontrent des pêcheurs, auxquels ils offrent des miroirs. Les indigènes sont émerveillés par les nouveautés. N'ayant jamais vu d'armes à feu, Tuhinowai demande à l'officier de faire feu d'un mousquet et, au bruit de la détonation, les Enana sautent tous à la mer. Tuhinowai leur explique à quoi servent les armes et que leurs détenteurs ne leur veulent pas de mal, mais seulement des vivres. Les Marquisiens leur expliquent que les cochons sont sur la côte nord, vers laquelle ils se dirigent en vain car un vent d'est contraire les oblige à redescendre au point de départ où les pêcheurs du matin leur offrent du poisson cuit, enveloppé dans du feuillage, en échange de quelques cerceaux de fer. Des cerceaux de barrique, nous verrons plus tard que ces cerceaux ont pris beaucoup d'importance pour les Marquisiens, car à cause de leur forme en langue de métal, ils ont vite compris qu'ils pouvaient les transformer en herminettes. Donc les étrangers descendent encore 1 mille vers le sud et accostent dans une baie d'un demi-mille de large où les naturels ne sont pas intéressés par leurs colis fichés et où Tuhinowai prend congé d'eux après qu'on lui ait offert une couverture, une hachette, un chapeau et un miroir. L'officier met près de 3 heures à rejoindre son navire qui, avec la goélette, prend la direction de Hawaï. Le 3 mars, les deux navires passent devant Heiau et Hatutu qui leur paraissent très fertiles. Lui aussi, Roberts, ayant cru découvrir le groupe nord-ouest des Marquises, il donne à chacune des îles des noms de présidents américains. Nous venons de voir qu'en 1791, 92 et 93, deux navires étrangers par année avaient atteint les îles Marquises. Ensuite, plus rien, jusqu'en 1796.
Certaines sources disent que le Français Joseph Cabri est arrivé aux Marquises cette année-là. Mais grâce au journal d'Edward Roberts, dont nous avons déjà parlé et qui était son ennemi, nous savons désormais avec certitude qu'il a déserté le navire London à Tahuata en février 1799.
Une fois qu'il est sur place à Nukuhiva, il vit heureux et tatoué chez les Taipi, chez lesquels il épouse la fille d'un Hakaiki de second rang, qu'il nommera Vaimaiki dans son journal. Avec cette marquisienne, il aura un fils et une fille. Il apprend le marquisien, il vit à la marquisienne, il se fait tatouer et, quand l'occasion se présente, il sert d'interprète au navire de passage. Mais comme on le verra plus tard, la plupart des navires sont des navires anglo-saxons, américains ou britanniques, qui ne parlent pas le français. Donc, il reste à Taipivai et a peu de contact, finalement, avec les étrangers. On reviendra plus tard sur le rôle de ces étrangers vivant au milieu des Enana. On les appelait du nom anglais de beachcomber, qu'on traduit par écumeur de grève. Autrefois, dans certains pays, les gens pauvres qui vivaient le long des côtes élevées allumaient des feux la nuit sur les falaises, afin d'y attirer les navires de passage. Ceux-ci se fracassaient sur les rochers, et puis les gens descendaient ensuite piller les débris. Heureusement, ce n'était pas le cas aux Marquises, où les écumeurs de grève servaient plutôt au chef Hakaiki d'interprète avec les navires de passage. Ils avaient donc un rôle central de communication que la plupart d'entre eux ont utilisé à leur avantage.
Il existe une autre explication tout aussi plausible à l'expression « écumeur de grève ou de plage ». Certains de ces étrangers qui désertaient les navires occidentaux se méfiaient des naturels et au lieu d'essayer de s'intégrer, ils restaient sur les plages et se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient.
1796, c'est aussi, à Nukuhiva, l'année de la naissance de Pakauotei, fils de Tuitou, petit-fils de Kiatonui, grand chef des Teii de Taiohae et futur père de Temuan. Chers amis, ne manquez pas la prochaine émission qui débutera avec l'année 1797, année de l'arrivée en Polynésie des premiers missionnaires protestants anglais de la LMS, la London Missionary Society, Société missionnaire de Londres. Elle comptait parmi ses membres un jeune homme de 24 ans qui fut le premier Européen à séjourner seul parmi les Enata puis les Enana, entre 1797, 1798 et 1799. C'était le pasteur William Pascoe Crook, dont nous reparlerons tout au long des prochaines émissions. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook TEO et sur mon site internet teo.com. Et merci à Joseph Kaiha pour sa chanson Ha'atupuna qui vante les mérites des traditions anciennes. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail copo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt. Bye bye. O oaiho.